Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre, le podcast de débat autour du manga. Voici le rendez-vous annuel d'analyse du marché. À quoi ressemblent les ventes de manga en France sur la période qui va de septembre 2024 à août 2025? Nous avons compilé des données et des chiffres venant de plusieurs sources, toutes vérifiées, puis nous en avons tiré des tops, des classements, des réflexions, des analyses. Et la première chose qu'on peut vous dire, c'est que la France a peur. Oui, du côté de toutes les maisons d'édition, les bidas s'effritent sous la pression d'une inflation galopante qui, tel un soufflet macro-financier, menace de retomber avant la fin de l'année. Et je vous dis ça alors que les taux directeurs valsent en contrepoint du marché, tandis que la liquidité du milieu se cache dans toutes les interstices d'une courbe de Phillips absolument capricieuse. Ouais. Bref. Dans le manga, là, on capitalise en espérant se désendetter, mais toujours avec un espoir de cash flow assez libre. Et moi, c'est ça qui me fait peur. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez pas que ça fait peur, tout ce cash flow aussi libre?
Ouais, c'est pas faux. Hein.
Tout à fait, Maxime.
J'ai rien compris.
Je pense qu'il y avait peut-être pas grand-chose à comprendre.
Oui, si vous avez pas encore compris, j'ai aucune idée de ce que je viens de dire. Hein.
C'est comme le sketch de Franck Lepage où il tire des mots au hasard et il fait une phrase avec.
C'est un peu l'idée, ouais, bref, ça ne veut rien dire. Mais je peux vous donner les 5 mangas les plus vendus en France sur cette période, si vous voulez.
Ça c'est bien.
Et bah numéro 1 c'est Instinct.
Oh. Mais non, c'est n'importe quoi.
Arrêtez de huer s'il vous plaît, on respecte Instinct d'Inox Tag.
Et la France a peur et elle est en colère aussi.
Tome 2.
Oula, ils sont dans la rue là, oula.
Et le tome 2 il est où?
Deuxième et troisième, One Piece 108, One Piece 109.
Oui, mais les versions métallisées.
Voilà, là c'est les valeurs sûres.
Quatrième et cinquième, Spy Family 13, Spy Family 14. Voilà, emballé, c'est pesé, ça sera tout ma petite dame. Oui, merci. Les ventes de manga en France, c'est le thème de cette émission et c'est parti maintenant dans la cinquième de couve.
On ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja.
À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols.
Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir.
On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre.
Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles.
Oh, les bâtards! Oh, this new crazy mother...
Vous êtes en train d'écouter la cinquième de couvre, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer le manga et leur vente. Salut à toi Robin, salut Julie, salut Johnny.
Salut
Maxime.
Alors, oui, tu peux donner mon prénom, vous pouvez aussi... est-ce que vous connaissez vos tables de multiplication, c'est bon?
Ouais.
Johnny, 6 x 7
42.
C'est bon. Alors, en préambule, rappelons que l'on fait de l'audio sans support visuel. Donc, quand il est question de vente de chiffres, l'objectif, c'est de rendre ça quand même un peu intelligible. Par conséquent, on fait donc le choix de parler de classement, de proportions. On va pas aller dans les détails trop précis. Sachez aussi que les données sur lesquelles on se base sont pour partie des estimations et qu'il y a toujours une marge d'erreur. Même si elle est infime, il y a une marge d'erreur. Et surtout, si vous avez la moindre question, contactez-nous. Si vous découvrez cette émission seulement maintenant pour la première fois, soyez les bienvenue avec nous dans la cinquième de couvre. On revient ici chaque semaine pour une heure de podcast et plusieurs centaines d'heures d'émissions sont déjà en ligne. Alors ça fait beaucoup à écouter, hein, mais ça occupe. Genre si vous entraînez pour un marathon et que vous partez de loin par exemple.
Ouais. Non, on doit être à 1000 heures, si vous venez de vous faire opérer des yeux par exemple, vous pouvez plus rien faire à part écouter des podcasts.
Bah, ça marche. Voilà, on peut glisser aussi des encouragements, des conseils running, des conseils santé ophtalmologie. Enfin non.
Nutrition. Et opérer des oreilles du coup, si on est sourd.
Ah. Et bien maintenant sur Spotify ou YouTube, tu as la transcription automatique. Alors,
c'est bien fait le monde d'aujourd'hui.
Il y a beaucoup d'erreurs, mais
les titres des mangas.
J'attends de voir ta phrase d'intro là. Comment il va la faire en sous-titre,
ça va la voir.
Si Cashflow et Bidda, je suis sûr qu'il va y arriver. Si vous aimez ce qu'on fait, abonnez-vous, activez les notifications, visitez nos pages sur les réseaux sociaux et surtout partagez l'émission, laissez un petit commentaire, ça aide toujours au référencement. Les chiffres, les ventes, les analyses, c'est parti. Attention, petit point de détail pour cette année. Et je vous dis ça, le cœur assez lourd.
Aïe.
Et avec beaucoup de tristesse, mais la multiplication des sorties webtoon et l'absence de différenciation dans les différents outils nous oblige à les prendre en compte.
Voilà, ça va.
Pour la première fois, on est obligé de prendre en compte les webtoons.
Oh.
Quelle tristesse.
Mais
quelle
non, tristesse. On est de fous et plus on rigole.
J'ai oublié le nom du web.
Il y a bien une autre tag.
Solo leveling. Je sais pas, solo leveling.
Alors, l'évolution du marché sur un an par rapport à l'année dernière, par rapport à la dernière émission, qu'est-ce qu'il s'est passé? paf, moins 12,1%. Hey. Voilà.
C'est la fin du manga.
Du coup, on est toujours envoyé cagnard, nous, parce que bah voilà, bah, oui, moins 12% à un moment donné, il fallait qu'on coupe quoi. Ouais.
C'est faux.
Ouais. Bah, c'est vrai. C'est, il valait 12%.
Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que ça veut dire obligatoirement moins de lecteurs?
Ah oui, moi j'arrête de manga avec ça.
Quand j'apprends ce genre de choses.
C'est à cause de toi que les librairies ferment.
Est-ce que ça veut dire moins de lecteurs, moins de hard lecteurs? Est-ce que le lecteur achète moins?
Attends,
comment vous le voyez cette
moins
baisse?
Moins 12%, c'est moins 12% de vente?
De volume, oui.
De volume de manga. Ah, oui, mais comme on en a vendu beaucoup avant, peut-être que c'est ça aussi.
Ah bah, on est toujours effectivement à x2 par rapport à...
Mais non, mais en vrai, on peut pas savoir
années,
parce que...
Bah, je te donne un autre chiffre si tu veux.
Vas-y, donne.
Ça peut dépendre de là où on se place, puisque l'évolution du marché sur les 200 meilleures ventes, de 200 meilleurs tomes vendus... Mmh. Elle est en baisse de moins 18%, 18,5%.
Ah oui,
les 200 meilleures ventes par rapport à il y a un an.
Oui, ils achètent moins, quoi.
Sont
oui,
en volume 18% plus faible, en chute de 18%, 18,5%.
Oui, mais ça se trouve, on a le même nombre de lecteurs, mais juste, bah, ils en ont vendu moins, quoi.
Bah, moi, ce que je pense, c'est que on a moins de petits lecteurs. Le lecteur qui achète que un tome parce qu'il a vu une pub, parce qu'il avait un petit peu de temps, lui, il a arrêté. Et il a acheté Demon Slayer, il a dit ça me suffit.
Parce qu'il n'y a plus de pub.
Bah, je pense que déjà, il y a aussi des séries qui se sont arrêtées, il y a l'inflation, enfin, il y a aussi le pouvoir d'achat des gens qui a diminué. Je pense que moi, j'ai aussi une autre analyse, c'est qu'à mon avis, avant, tu avais des lecteurs qui étaient avides de nouveautés, c'est-à-dire qu'ils se jetaient sur la nouveauté quand elle sort. Et pour en avoir parlé avec un libraire, alors il parlait plus pour la BD, mais j'imagine pour le manga, ça doit être des phénomènes similaires. C'est qu'il remarque que ses clients, maintenant, ils y regardent un peu à deux fois avant, ou ils n'achètent pas tout de suite la nouveauté. C'est-à-dire qu'ils vont passer, ils vont faire un tour, ils vont regarder ce qui sort. Puis peut-être qu'ils l'achèteront, tu vois, trois mois plus tard, ou un truc comme ça. Donc il faut que la nouveauté reste en place et reste visible pour que les gens y repensent au moment où ils vont se décider. Et ça, c'est pas toujours, en corrélation avec la façon dont les librairies tournent. Les librairies sont très, très drivées soit par la nouveauté. Donc une nouveauté en chasse haute, quoi. Donc peut-être ça aussi, ça peut expliquer cette baisse tendancielle, on va dire.
Oui, et puis il y a aussi le fait que effectivement le rythme est hyper soutenu, que en tout cas pour les mangas, rester sur une table de librairie, c'est quand même un challenge, quoi, parce que il y a tellement de turnover, de nouveautés qui arrivent ou qui chassent des titres qui sont pas forcément qui ont pas eu le temps en fait de s'installer dans le paysage des librairies, que oui, ça demande un peu plus de recul. Et en fait, maintenant, on n'a plus le temps. Quoi. C'est ça, le constat.
Je peux faire le calcul, hein, je peux même contredire ton libraire, Robin, parce que si on s'amuse à faire ce même calcul, mais que sur les nouveautés, que sur les tomes sortis sur la période septembre 2024, août 2025, la baisse n'est que de 9%.
Ok, bon bah d'accord.
Non, bah,
mais
moi,
après, s'il l'achète un peu plus tard que prévu, ça veut pas dire qu'il l'achèteront pas. Je pense que c'est oui. Et du coup, pour le fond, pour des séries peut-être plus de fond, là pour le coup, ça va forcément avoir un impact aussi, quoi. Mais...
Oui, puisque celles sur les volumes qui ont plus d'un an, la baisse, elle, est de 13% forcément. Ça s'équilibre aussi. T'allais dire un truc, Johnny?
Oui, j'allais dire que moi j'ai moins eu de manga, effectivement. J'en ai certainement 6 mois acheté parce que j'ai eu beaucoup de jeux vidéo cette année. J'ai eu beaucoup. Il y a Elden Ring qui est sorti, un nouveau, il y a Assassin's Creed Shadow. Il y a Expédition 33, il y a Alter. Et en fait, il y a des
trucs. Tu crois que c'est la faute de
Expédition
33 ?
Expédition 33 a trusté pas mal le marché. Mais il y a beaucoup de jeux qui sont sortis quand même en début d'année. Hein.
Mais ça, je pense que pour le coup, c'est un vrai truc. C'est que je pense qu'aussi dans les générations de lecteurs de maintenant, alors que ce soit des gens de nos âges, mais plus jeunes aussi, tu vois, il n'y a plus le côté le manga a une place absolument centrale. C'est des gens qui consomment pas mal d'autres choses aussi, donc forcément
ça fait longtemps qu'on le dit, ça.
Ouais, mais tu vois, avec les plateformes, en plus on sait que maintenant les mangas, c'est beaucoup, bon, évidemment c'est pas nouveau, mais je veux dire, c'est très 360, donc il y a des animés, donc en fait les gens ils regardent les animés, ils achètent pas forcément les mangas, enfin bref, il y a tout un truc qui fait que ça peut aussi expliquer une baisse, sachant que voilà, comme on l'a déjà dit, c'est une baisse aussi qui arrive après plusieurs années de hausse complètement hors norme. Donc,
Tout à fait, cette émission fait suite à l'émission qu'on a fait l'année dernière à la même période, où on donne aussi d'autres éléments de compréhension, et forcément on revient aussi sur les années précédentes et les 20 dernières années. Donc voilà, mis bout à bout, ça donne beaucoup de choses, mais j'arrive quand même pas à me sortir de la tête que les lecteurs addicts comme nous, hein, sont toujours là, présents, Et toujours à la recherche de nouveautés, on est tous pareil, on veut notre dose de manga, tu vois, on en a besoin. Mais que vraiment, ce sont les lecteurs de Blockbuster Only qui semblent être allés au bout et qui effectivement se tournent beaucoup plus vers l'animation, puisque jamais les animés n'ont été autant disponibles qu'aujourd'hui.
Oui, c'est oui, ça aussi, c'est ça. Que là, il y a une disponibilité assez folle, quoi. Mais après, je pense que tout bêtement, on subit un peu le contre-coup du marché japonais, c'est-à-dire qu'il y a moins de grosses séries aussi, quoi, tout simplement. Les grosses récentes se sont arrêtées. Là, on va forcément aussi tasser entre guillemets les ventes sur les grosses séries qui sont encore en cours. Bon, évidemment, les grosses séries continuent toujours à vendre, mais elles vendent moins que quand elles sont encore en cours, quoi. Donc c'est ça aussi, ça, c'est un truc structurel sur lequel on peut pas grand chose, quoi, finalement.
À part Dragon Ball.
L'inflation, ça aussi, c'est une des raisons probable.
Bah ouais.
Netflix qui a augmenté ton forfait de. Salaud, t'en as bien compris.
Mais tout a augmenté, ma bonne dame. L'inflation, elle fait son job sur un an. Les prix des 500 meilleures ventes ont augmenté de 2,5%.
Ça craint,
soit, ouais. Mais c'est en dessous des 4,2 annoncés à date en France sur 2025. Le taux d'inflation en France est de 4,2. Et ouais. Les mangas, les 500 meilleures ventes de mangas, j'ai pas tout pris parce que après c'est compliqué, ouais. Mais ont augmenté de 2,5%.
Oui, bah,
tu veux leur dire merci.
De toute façon,
merci.
Globalement, on sait que les éditeurs, entre guillemets, n'avaient pas le choix, donc ils ont augmenté le prix de vente, mais ils se sont pas du tout calés sur l'inflation. Ils ont augmenté ce qui leur permettait de continuer à garder le même niveau de marge de rentabilité. Parce qu'ils peuvent faire des économies d'échelle. Enfin, bref, on va pas vous refaire tout un cours sur l'économie, mais globalement, ils pouvaient augmenter les prix de manière moindre par rapport à ce qu'on subit sur l'inflation générale, quoi.
Mais si vous voulez qu'on se fasse mal, sur 20 ans depuis 2005, plus 16%.
Eh oui, monsieur. Moi, Shaman King, je l'ai acheté 35 non,
alors,
francs.
Je pense
35
francs. Ouais, mais après, je pense qu'il y a aussi une explication, c'est qu'il y a beaucoup plus d'éditions chères, tu vois. Ça, c'est quand même des prix qui sont très très supérieur au prix moyen des ventes de mangas, donc ça forcément ça a un impact,
oui,
vraiment
oui, non, parce que j'ai
même
pris
là,
justement
les, meilleures ventes,
les 500 regarde, meilleures ventes uniquement,
ouais, mais
donc
si tu prends Instinct, il vaut plus cher qu'un manga, donc c'est tu vois, c'est des ventes énormes, donc tu vois, ça peut aussi expliquer, oui. C'est des épiphénomènes, mais qui peuvent aussi avoir des conséquences.
Et sans vouloir défendre les éditeurs, en fait l'inflation sur 20 ans en France est deux fois supérieure à cette inflation là,
ouais.
Donc finalement j'ai l'impression que c'est eux qui perdent, ou nous, enfin tous, on perd tous, mais je veux dire,
oui.
L'inflation en France est deux fois supérieure à l'inflation du prix des mangas. Donc les mangas auraient dû, s'ils suivaient l'inflation, ouais, être encore plus chers.
Ouais, comme mon salaire, ça serait très bien. petit appel à toi, ma boîte.
Patron de Johnny. Donc finalement, le manga serait peut-être un des bons élèves, loin devant le beurre,
ouais,
par exemple.
Oh, j'ai le beurre, mais ça coûte trop cher, les gars. Vous avez pas vu 6,39 les 500, les 0,500 grammes, là, c'est horrible.
Ouais, t'habites dans Paris, toi, hein.
Oui, c'est vrai. c'est vrai.
Les mangas publiés depuis 20 mois représentent 38% du total des ventes. On est quand même toujours addict aux nouveautés, enfin exactement comme l'an dernier ou comme l'année d'avant, en fait. On est à peu près stable, hein. L'année dernière, je crois que c'était 37 et l'année d'avant 36, donc on est à peu près dans les mêmes eaux. Et donc les mangas publiés depuis plus de 20 mois, qui ont un an et demi, hein, c'est 62% des ventes.
Ça va.
Mais oui, ça va. Forcément, oui. Ça va. Le reste est aussi très stable au niveau des catégories, les fameuses catégories. Alors en France, c'est un peu le bordel, parce que entre les catégories des labels des éditeurs,
oui,
les catégories qu'ils déclarent commercialement, et la réalité, des fois, t'as trois catégories différentes. Mais bon, on arrive quand même à des chiffres à peu près stables, avec 21% de seinen vendus en France, 7% de shoujo et 71% de shonen. Ça ne bouge absolument pas, ou alors à la marge, quoi.
Ouais, parce que le shoujo, c'est quand même bien. Petit à petit, ça a quand même gagné des petites parts de marché. Bah, ça grignote, quoi. Mais
ça grignotouille.
Ouais, mais il y a eu un moment où ils ont vraiment plongé juste après le Covid. Donc là, c'est pas mal d'être remonté jusqu'à 7% des parts de marché.
Ouais, mais c'est ce que disait Max. Au final, il y a plein de shoujo qui sont catégorisés en shonen, justement pour faire vendre, alors qu'au final c'est des shoujo. En truc, je sais pas, mais je pense à un truc comme ça.
En plein, non, il y en a pas.
Ouais,
il
y en
a
pas pléthore.
Tant que ça. Et non, c'est très très légère augmentation du shoujo, mais c'est vraiment, vraiment à la marge. On est sur quelques milliers d'exemplaires. D'ailleurs, sur les 12 derniers mois, quelles sont les nouveautés, les lancements de séries originales qui ont pu emmener les gens en librairie? Et vous avez probablement un avis sur la question. Vous vous doutez sûrement de quelle série originale est en tête des meilleurs lancements de ces 12 derniers mois?
Bah c'est Kagurabachi.
Évidemment, Kagurabachi. Alors, j'ai pas compté Instinct, parce que Instinct, j'ai pas compté ça comme une série.
Je sais, oui. Bon,
non, parce qu'après, j'ai une catégorie réédition, marketing et objet.
Produit.
Autre.
Produit autre.
Ah, t'as le truc de KFC, là?
T'as le manga de KFC? Non,
bizarrement, non. Ça remonte, hein, quand même.
Poulet frit, c'était trop bien.
Ça remonte, le manga sur le poulet frit. Et un autre manga qui va te plaire aussi dans cette autre catégorie. On revient sur celle-ci. Donc, lancement de série en France. Nouveauté qu'ont pu emmener les gens en librairie, Kagurabachi, qui est loin devant, qui explose la concurrence comme prévu. Il a fait le double d'exemplaires du second, par exemple.
Waouh.
Mmh. Numéro 2 de ce classement. Et alors là, je suis étonné.
Ouais, moi je suis pas étonné.
Ah bon ?
C'est Versus.
Mais oui, parce que les collectionneurs, ils leur voulaient les 15, les 15 couvertures, c'était évident.
C'est ça en fait. Bah, donc, c'est ok, c'est One. Et puis surtout, Versus est sorti en fin d'année dernière. Donc c'est lui dans ce classement qui est là depuis le plus longtemps.
Mais non, mais c'était une.
Mais le bonus du idée. Côté booster, ouais, c'est super choix commercial.
Ouais, c'était une bonne idée que d'ailleurs Panini a repris.
Mais d'une autre manière.
Ah oui. Bon, c'était un peu la même chose hein, au
pour
final.
Katanabe, oui, ça avait la même tête, mais ils l'ont fait un peu différemment.
On va en faire 3 au lieu d'en faire 15.
Mais c'est vrai que si tu prends Versus, c'est un titre qui passe un peu sous les radars. Tu vois, genre, en vrai, t'as pas l'impression que les gens en parlent spécialement. Enfin, tu vois, c'est vrai qu'il est à un niveau très élevé par rapport à la hype qu'on pourrait lui trouver. Tu vois, genre, même si c'est un bon titre, hein, on en a
parlé. Et pourtant, c'est quand même
tout,
One l'auteur. Donc finalement, il y a One Punch Man, il y a Mob Psycho derrière. Donc en plus, il a une réputation. Les deux cumulés entre l'OP marketing du tome 1 et de ce côté, donc en fait, pour vous le rappeler si vous l'avez raté, chaque tome, enfin, il y avait deux éditions, une édition normale et il y avait une édition booster qui était enfermée dans une pochette plastique comme les boosters de cartes Pokémon.
Tout à fait.
Oui, c'était opaque et on pouvait pas savoir quelle était la couverture. Donc il y a un côté loterie.
Et t'avais plusieurs couvertures et certains ont voulu collectionner toutes les couvertures, ouais. Donc forcément, ça booste aussi, ouais.
C'est pas nouveau, hein. Last Man l'avait fait en 2012 à son lancement.
Mais est-ce qu'il y en avait 10?
Non, il y avait 3. Il y avait or, argent et...
Il y avait l'histoire avec Blue Lock aussi, les tickets d'or. Les tickets d'or,
le ticket d'or, ouais, carrément.
J'en ai acheté 4 pour rien. Ça m'énerve.
Et t'avais pas eu ton ticket d'or. Troisième de ses meilleurs lancements, Phantom Busters, juste derrière Versus. Super titre, pas si attendu.
Non, mais c'est une bonne surprise, moi, je trouve, hein, de le voir. Alors, à ce
un rang. Très bon shoujo. Hein. Très bon. blague.
Bah, gros boulot de Kyun, encore une fois, pour réussir à placer Phantom Busters à cette place. Pas si attendu, mais pas sûr. Bon, alors, je m'y attendais pas. Il y a un an, tu m'aurais demandé quelles étaient mes prédictions. Jamais je l'aurais mis dans le top 3, mais... Quand j'ai vu ce qu'ils ont fait et tout le travail qu'ils ont mis en place, plus l'édition collector et ainsi de suite, bah ça m'étonne pas de le voir troisième. Puis en plus, je l'ai lu entre temps.
Et c'est bien.
Donc c'est justifié, ouais, carrément. Quatrième, on a Bloom.
Alors ça, c'est incroyable.
Bah, bon lancement, correct, quoi. Même petite réputation. Puis quand tu regardes les chiffres, ça a été super bien porté par l'animé.
C'est fou, quand même.
Cet été, et les étoiles se sont vraiment bien, bien alignées. Toutes les étoiles étaient alignées pour Bloom. Mmh.
Comme quoi, hein, Netflix encore, tu payes, puis t'es content. Hein.
Pour regarder Bloom, c'est ça qui me manquait en fait.
Ah, je Bloom, pas mes phrases.
Elle est diffusée sur Netflix, oui.
Non, en vrai, c'est un bon titre parce que j'ai bien aimé, moi, Bloom.
Derrière, on a Ruri Dragon, c'est le titre le plus récent de ce classement. Et c'est donc super intéressant de le trouver à cette place. Il a seulement 2 mois hein, et il est déjà aussi haut. J'ai l'impression que le bouche à oreille a vraiment bien fonctionné sur Ruby Dragon.
Ouais, parce que c'est un titre qui n'a pas démarré en fanfare comme Kagurabachi a pu le faire. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'au final, les ventes semaine par semaine sont giga stables, quoi. Ce qui n'est pas toujours le cas. En général, souvent, quand il y a un lancement, tu as une première semaine qui est énorme. Et d'ailleurs, souvent, c'est un peu le syndrome de on regarde la première semaine pour savoir la santé d'un titre, alors que c'est très tôt, quoi, tu vois. Et là, pour le coup, il a fait une première semaine bonne, mais tu vois, genre pas non plus très loin de Kagurabachi, par exemple.
Ouais,
mais
pour un titre du Jump.
Voilà. Par contre, ce qu'on constate, c'est effectivement que, à mon avis, les libraires s'en sont emparés, ils l'ont lu, ils ont aimé, parce que c'est un titre, on en a parlé nous-mêmes, qui n'est pas facile non plus, tu vois, c'est un titre qui est à vendre, qui est pas super facile, alors qu'il est plein de qualités une fois que tu le lis, mais quand tu dois le vendre, c'est vrai que tu te dis, bah oui, on a un peu l'impression qu'il se passe rien dedans, mais en fait, finalement, bah voilà, ce bouche à oreille fonctionne. Donc je trouve que c'est un titre qui est intéressant à analyser du point de vue bah voilà, la prescription, visiblement, ça marche encore, tu vois.
C'est... Bah, je pense que c'est la même chose aussi pour Bloom, hein, s'il est aussi haut, l'animé a eu son effet, mais il y a une bonne prescription aussi. Je pense qu'ils sont dans la même catégorie, tous les deux, de cette manière.
Et Ruri Dragon aussi, il y avait deux éditions, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et donc, Glénat avait été assez malin, parce qu'ils avaient fait l'édition spéciale au même prix que l'édition standard. Donc, du coup, tu vois, il y avait un côté, tu te fais pas non plus, t'as pas l'impression de te faire banane non plus, quoi. Tu payes vraiment juste une couverture alternative.
Bah, sauf que tu payes les deux, quoi.
Bah, si t'es un taré, mais sinon, tu prends la voilà.
Voilà.
Kaguya-bashi, c'était la même chose. Hein. T'avais eu deux éditions au même prix. T'avais juste une édition qui allait rester dans le temps et pas l'autre.
Ça booste mécaniquement un peu les ventes aussi.
On continue avec My Love Story with Yamada-kun at level 999. Premier lancement shoujo original de cette année.
Titre trop long.
Ensuite, on a les Noces des Lucioles. Big up à Oreko Tachibana, hein, qui est venu en France.
Bah, elle a bien fait de venir.
Exactement.
Très bonne idée.
Un des meilleurs lancements. Ensuite, on a La Servante de l'Empereur. On a Centuria, comme Ruri. Hein, c'est une sortie très, très récente, donc c'est intéressant de le voir aussi haut. Suivi de Erio and the Electric Doll, Remède Impérial, L'Étrange Médecin de la Cour, Tatari, La Gardienne des Concubines, Mangaisho qui est là.
Et
je sais pas, je l'ai
cool.
mis, il fallait le mettre quelque part, je l'ai mis là.
Il est pas dans les licences rééditions autres.
Il est dans produits, dans objets, dans calporte, dans plein
de choses. Je sais pas trop où mettre, en fait. C'est vraiment, je me suis dit, je le mets là ou pas, ou je sais pas. Et puis Tokyo, ces jours-ci.
Ah, il y a un peu d'espoir dans ce monde, finalement.
Non, mais c'est sympa, je pense qu'on a parlé de quasiment tous ces titres. Cette année dans la cinquième de couve. À l'époque, l'an dernier, si on se souvient, le top 5 c'était Le Voyage de Shuna, Kindergarten Wars, Akane Banashi, Goku Rakugai et The Summer Hikaru Died. On est sur des typologies assez différentes malgré tout.
Oui. C'était plus panaché l'an dernier, j'ai l'impression.
C'était plus faible en nombre d'exemplaires aussi.
Ah oui, ouais, bah en fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on sent quand même le manque de gros titres. Tu vois, genre là, il y a Kaguya-bashi qui un peu a pris ce rôle, mais sinon, c'est vrai que dans les nouveautés, c'est des titres qui se vendent bien, mais qui sont pas non plus des cartons phénoménaux.
Ah, la revanche du middle seller.
C'est ça. Combien de séries différentes on retrouve dans le top 100 des ventes de manga? L'an dernier, il y en avait 15. Seulement 15 séries se classaient parmi les 100 meilleures ventes de manga l'année dernière. Cette année, on en a 20, 5 de plus.
C'est bien. Enfin, ça montre aussi quand
ça
même.
Ça atteste éventuellement ma théorie du les clients full blockbuster achètent moins et plus de gens différents achètent.
Oui. C'est bien. Le manga, c'est diversifié. C'est donc, montrer que
ça dépend ce qui rentre après.
Ça dépend ce qui rentre. Exactement. Attention.
On va voir. Attention.
Numéro 1, c'est évidemment One Piece. Ah. 25 tomes parmi les 100 meilleures ventes. C'est quand même 11 de moins que l'an dernier.
Ouais. Ah oui. Petite année, One Piece. Je blague.
Spy Family est deuxième avec 12 titres, un de moins que l'an dernier. Ça se maintient. Blue Lock est troisième avec 11 titres. Plus 7 titres. Donc c'est,
tu sens que Blue Lock, c'est le titre qui est.
C'est l'année, celui qui a bien percé comme il faut. Derrière, donc j'avais pas le choix, fallait que je le mette. C'est Solo Leveling.
C'est incroyable, 11. Mais c'est 11. Énorme.
11 sur 100, quoi. 11% des meilleures ventes.
Ça, j'avoue, c'est possible.
Mais en plus, il est fini, hein.
Mais ouais, mais écoute.
Et en plus, les auteurs étaient venus.
Les auteurs, oui.
Pendant le Japan
Expo. Un mec du studio.
Oui, voilà.
C'est pas une IA qui fait ça.
On rigole, évidemment. On rigole.
Et moi, j'adore Solo. Hein. Moi, j'ai fini le. Qu'on appelle ça? Ce web.
Le level.
J'ai fini. Et non, j'ai beaucoup aimé. Hein. Lisez-le.
Cinquième meilleure vente, Les Carnets de l'Apothicaire. Cinquième de ce top 100. Les Carnets de l'Apothicaire, Jutsu Kaisen et Demon Slayer. Ils en placent chacun 5 dans les 100 meilleures ventes. Pour Jutsu Kaisen, c'est 11 de moins que l'an dernier.
Oui, ça fait mal un peu.
Ouais.
Tu dis, ah, ça.
Ouais, mais c'est bientôt fini, je pense.
Mais c'est pour ça, ouais.
Donc on a l'ascension Blue Lock et la chute Jutsu.
Après, les Carnets de l'Apothicaire aussi, hein, ils ont quand même beaucoup baissé par rapport à.
Ils font plus 3. L'année dernière, il n'y avait que 2 volumes des Carnets de l'Apothicaire. Les 100 meilleures ventes, cette année, il y en a 5.
Il n'y a que 15 volumes aussi. Mais Jutsu, je pense que les gens, ils sont un peu. Moi, j'ai un mec au table, il m'a dit. Non mais je comprends plus rien là. Je vais faire une pause parce que
ah ils sont dans leur arc de la grande guerre des ninjas là, ça y est, c'est bon.
Et il a fait j'aimerais bien que l'auteur il reprenne Hunter x Hunter plutôt. Ah,
est-ce qu'il croit vraiment qu'il y a un truc?
Oui, moi je voudrais
être
millionnaire. Il croit vraiment qu'il y a un truc avec les deux.
Peut-être qu'on sait pas et que c'est la même personne. Je ne crois pas. Derrière Naruto, My Hero Academia, c'est 4 volumes dans les 100 meilleures ventes l'un et l'autre. Légère petite baisse. Berserk également petite baisse avec 3 volumes. Kaiju pareil pour Kaiju numéro 8. Dragon Ball, ça chute encore un peu, 2 volumes dans les 100 meilleures ventes. Nouvelle entrée Robin, à toi de me dire si c'est une bonne ou pas.
Il y a pas de bonne ou mauvaise entrée.
2 volumes de cette série.
Incroyable.
Sont parmi les 100 meilleures ventes de manga. Cette série s'appelle Minecraft.
Oh, je crois que je préfère encore Solo Leveling.
Mais attends, mais Solo Leveling, c'est vraiment bien. Minecraft, il paraît que le film est vraiment nul. Les gens, ils sont...
Bah oui, mais le jeu...
Là, c'est le manga.
Bah justement, donc peut-être qu'ils sont abattus sur le manga parce que le film était nul. Il faut
c'est
y
un
voir
des plus gros succès du box-office de l'année.
Oui, non, mais moi, je pense qu'il y a un effet...
Il est vraiment nul.
Il y a un effet film qui est évident, là, pour le coup.
Mais tu l'as pas vu.
Mais moi, j'ai mon cousin de 12 ans qui m'a dit qu'il a 12 ans. Et il a dit qu'il est nul.
Ouais, alors du coup, on va pas juger sur... peut-être qu'il est super nul, hein, le film. Ça, c'est possible. Mais...
On l'a pas vu.
Je fais pas croire ton cousin de 12 ans. Ouais. Parce qu'il a 12 ans. Ouais, justement.
Mais le top 14, je suis allé voir le film. Et il est très bien.
Stitch, ami voilà. Pour la vie.
Déjà, ça, je l'ai vu.
Autre entrée de ce top 100. Deux volumes de Stitch, ami pour la vie sont parmi les 100 meilleures ventes de manga. Robin, bonne entrée.
Bah, je crois que je préfère ça à Minecraft, mais
mais Solo,
je saurais pas dire.
Si,
non, je mets quand même Solo au-dessus. Attends. Ouais,
derrière, on a retour de l'attaque des Titans, entrée de Kagurabachi, un seul volume évidemment pour ces titres, un seul volume pour Dan Dadan qui est de retour, effet anime peut-être. One Punch Man en perd un, mais il est toujours là. Instinct évidemment, vu qu'il est numéro 1, il est dans les 100 meilleures ventes. Et puis Boruto, To Blue Vortex, la suite de Boruto est plutôt bien, c'est plutôt bien lancé puisque il fait partie des 100 meilleures ventes de manga sur cette période. Au revoir Asclass.
Putain, j'ai eu peur parce que quand je l'ai vu, je fais ouais, t'es toujours là.
Bah, il est là chaque année. C'est la okay, première année là, où il recule genre de 20 places, tu vois.
Non,
il est pas loin, ça peut arriver à tout moment. Chainsaw Man, on en a plus. Le voyage de Shuna, ça y est, c'est fini.
Aïe.
C'était que l'année dernière. Enfin, non, il y a une réédition là en ce moment. Et Tokyo Revenger, on n'en voit plus non plus.
Ouais, on y a perdu un peu quand même. Pardon, mais on perd Chainsaw et Shuna et on a Instinct.
Ouais, mais Shuna, on t'a dit qu'il va revenir pour Noël. Là. C'est bon.
Shuna, Minecraft, Stitch. Non, ça te...
Si, tu devrais lire.
Alors, du côté des éditeurs de manga, qui est en tête? Bon, ça change pas, en fait. On peut refaire ce classement chaque année, j'ai l'impression que c'est la même chose. En France, maintenant, c'est donc le quatuor de tête qui domine le marché. AE4, c'est plus de la moitié des ventes de manga. En termes de chiffre d'affaires, Glena, Kana, Kiun, Pika, voilà, un manga sur deux, ça part chez eux.
Félicitations, déjà.
Tout à fait.
Bah, ou alors, pas merci, hein, parce que ça se trouve, ils produisent trop. Hein, faites moins, laissez la place aux autres.
Ou pas, parce que cette année, comme on prend en compte le webtoon, il y a des webtoons. donc, Pika remonte bien et recolle bien aussi. Il prend même la tête du trio de poursuivants hein, derrière Glena, qui est toujours à plus du double d'un des trois. Voilà. Si l'un des trois est à 10%, Glena est à plus
de 20%. Mais c'est trop des énigmes, tes trucs. Il y a du double de l'un des trois, et on ne sait pas lequel. C'est du coup, suivre. On ne veut pas donner de chiffres. Il faut que tu fasses x2. Moi, ça. Vas-y.
6 x 7, Johnny
42, mais.
Ça, c'est bon, tu l'as. Ok. Donc, 2 x 1.
Bah, 2.
2. Ok. Donc, le double, c'est 2 x 1.
Ah, c'est pas 50%.
Non, du coup, c'est...
Ne le commence pas à le perturber, Robin, sinon tu vas nous le perdre. Reste sur 6 x 7 ou 2 x 1.
Ouais,
derrière, il y a un petit peloton qui est composé de Kurokawa, de Crunchyroll et de Kabooks. Et puis pour boucler le top 10, il y a Panini, Delcourt, Nobinobi. Puis on a l'énigme Michel Lafon, pas loin. Hein. Alors qu'avec Instinct.
Mais... Oui,
mais ils sont là et puis même si c'est pas dans le top 10, on a Soleil, Mangetsu, Doki Doki ou Meiyan qui sont quand même pas très très loin. Je parlais donc de Michel Lafon et d'Instinct. Voici donc le top lancement autre. Licence,
les...
spin-off, réédition,
marketing, quoi.
Produit marketing, la fête où on connaît. Ouais, on connaît, c'est pas vraiment un lancement. Instinct, donc, bah évidemment, hein, avec près d'un demi-million d'exemplaires, c'est quand même une folie.
Tu sais, oui.
Non, mais c'est...
Je me l'explique pas, vraiment.
Moi non plus.
C'est la popularité. Enfin, là, c'est un effet de masse. Là. C'est-à-dire que le mec a tellement de fans que forcément, tu vois, ça a comme conséquence ça. Quoi. Mais...
Est-ce que c'est lui-même qui l'a acheté?
Non, bah non, non, je te jure que non. J'étais dans une librairie et je vois deux ados qui tournent autour.
Oui, moi aussi.
Alors je tends l'oreille. Et puis là, il y en a un des deux qui fait « Ah, regarde, c'est le manga d'Inox Tag ». Alors il le prend, il le montre à son copain et son copain lui fait « Non, mais je sais même pas s'il l'a lu ». Sous-entendu, Inox Tag, il a juste mis son nom.
Oh.
Et l'autre, il fait « Ouais, je sais bien, mais c'est Inox Tag ». Voilà.
Fin de l'histoire.
Fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'il ne savait pas de quoi ça parlait, il en a entendu parler. Mmh. Il savait très bien que Inox Tag s'en était préoccupé de plus ou moins loin. Et même
mais que
si
c'est pas un mangaka.
Mais de toute façon, c'était dans cette bulle où il avait fait son film en même temps. Du coup, c'est sorti.
C'était pas très loin.
Ouais, franchement,
ouais.
À 2-3 mois près. Du coup, c'était vraiment ce moment-là où ouais. Inox Tag était partout.
Et oui, c'est un produit de. C'est un goodies. Mmh. C'est pas pour dévaloriser le manga, c'est juste qu'il est vendu comme un goodies. Oui. Et s'il avait été vendu comme une œuvre à part entière, sans tout ce marketing, enfin pas sans tout ce marketing, mais avec moins de côté objet de lancement, s'il y a quand même eu une collection de vêtements Instinct qui a été lancée en même temps. Enfin, c'était un concept
oui.
Instinct, c'était plus qu'un manga. Et si c'était sorti chez un éditeur, ça aurait fait beaucoup, mais beaucoup moins. Donc bravo, faut quand même envoyer les gens en librairie, il faut quand même réussir à faire ces ventes-là, mais effectivement c'est un épiphénomène quoi.
Bah ça fait 7 500 000 euros de chiffre d'affaires, hein. on est content, oui.
Je sais pas comment tu le comptes, mais...
Bah 15 fois 500 000.
Faut enlever la TVA normalement, mais...
Ouais, mais je le fais pas ça.
Parce que c'est des pourcentages et il est pas arrivé là, pourcentage.
5, 19,5, je sais jamais, tu vois.
Numéro 2, c'est donc Minecraft, le manga officiel Voyage au bout du monde, c'est le sous-titre. Hein. C'est quand même une des licences qui fait vendre le plus hein, Minecraft. Parce que donc, le film que ton cousin,
n'a
ton
pas
petit
aimé.
Cousin n'a pas aimé.
Mais est-ce qu'il a aimé Instinct?
Ah, bonne question.
C'est quand même un carton au box-office. Minecraft, depuis longtemps, les éditions 404 notamment, font des bouquins qui se vendent par carton mais sur les guides non officiels, les histoires autour de Minecraft.
J'étais tombé sur des chiffres. C'est de très très loin le jeu vidéo le plus vendu de l'histoire. Donc c'est pareil, il y a une espèce de masse de gens qui connaissent et qui aiment Minecraft qui est vraiment gigantesque. Donc forcément, sur tous les produits dérivés que ça peut faire, ça crée aussi des masses. Enfin, tu vois, ça fait des chiffres élevés aussi, quoi.
Il serait premier si on avait un classement réédition. Mm-hmm. Faudrait peut-être qu'on y pense un jour ou l'autre, hein, parce qu'il commence à y en avoir beaucoup maintenant. Meilleure réédition la plus vendue de cette année pour le tome 1, c'est Berserk, la nouvelle édition de et Berserk. C'était sûr, non?
Mais la grosse, là?
Ouais, oui, la grosse, là.
Oui. Ah, c'est lui, une erreur.
Celle qui avait des bouts bien
c'était
pointus.
C'était le tome 2, là, on parle du tome.
Oui, t'aurais juste dit le gros livre, ouais, t'as mis le « là » à la fin, c'était très, très péjoratif, j'aime bien ce truc-là. Oh là là.
Pas du tout.
Il y a Cascade, ah, je déteste Cascade. Oh là là.
Non, la grosse édition.
C'était pas une émission avec cadeau.
Donc oui, Berserk, le gros bottin, le gros volume, avec couverture rigide.
Voilà, belle fab, jaspage, tout ce que vous voulez. Donc oui, bah après voilà, c'est la force de Berserk. C'est vraiment clairement un manga qui est devenu un phénomène en soi. Alors pour le manga en lui-même, mais aussi évidemment pour... la tragédie quand même malgré tout du destin de Kentaro Miura, mais je veux dire c'est devenu une œuvre complètement à part dans le paysage manga, donc c'est pas étonnant je trouve.
Ensuite on va trouver une puissance encore plus phénoménale en termes de taille que Berserk, puisque c'est Kaiju numéro 8, le spin-off.
Ah bon,
je m'attendais pas.
Moi ouais. Non plus, ouais, j'avoue.
Ils savent de quoi. Je l'ai pas vu.
C'est le side B, c'est l'équipe l'une des autres équipes.
Oh les nazes. C'est l'équipe des nazes.
Non, c'est pas ça. Forcément.
Mais pourquoi
non.
Les nazes?
Je sais pas si c'est pas l'équipe principale.
Non, moi, c'est celui qui se bat avec des sabres et tout. Qui... Non.
Ah, mais oui, lui, il est nul. Lui.
Ouais,
c'est
sûr.
Que je disais, il était nul.
C'est comme si jamais il y avait une side émission de la 5e de couvre, ce serait pas l'émission principale, ce serait naze.
Putain, ça serait Cagnard.
ce qui coûtait trop cher, donc
12% et voilà.
Je vais lancer son podcast tout seul.
Donc dans ce cas-là, ça, on est d'accord, très bien. 45e édition du tome 1, alors chiffre que j'ai inventé, c'est Demon Slayer qui se retrouve dans ce classement en 5e place. Alors non, c'est pas la 45e édition du tome 1, mais c'est encore un tome 1 de Demon Slayer, mais pourtant
bah ça fonctionne.
Ça fonctionne. Alors c'est toujours ils font un gros boulot d'édition dessus, hein. C'est des objets, c'est toujours quelque chose, quoi. Mais
en plus là, il y a le film. Bah, c'est ça.
Oui, mais le film, il est là maintenant.
Ah, oui, là, c'est sur l'année.
Mais ce que je veux dire, c'est que il y a quand même une espèce de mouvement toujours. C'est pas un titre qui est planté dans ça y est, c'est fini. Et puis voilà, ils essayent quand même d'irriguer la licence malgré tout.
Ouais, je pense quand même que même si c'est fini, c'est une licence qui pour le coup continue à vivre par ses exploitations autres aussi, tu vois.
Ouais, donc, mais pour le plus grand malheur des fans de l'animé, parce que
Oui.
Nous, ça fait déjà 2 ans qu'on connaît la fin de l'histoire. Oui, ils sont là disant, je me demande ce qui va se passer.
C'est pour ça, avis à tous nos amis amateurs d'animé, achetez les livres. Déjà, ça fera du bien aux maisons d'édition et en plus, vous aurez la fin.
Mais donc, ouais, Demon Slayer est toujours là. Et oui, on en parlait la semaine dernière avec d'autres participants du Discord de la 5e de Couve, dans lesquels on a plein de discussions. Parfois rapide, parfois plus longue, et on parlait de ça et du fait que ça allait potentiellement s'étendre jusqu'à 2029. Ça fait encore beaucoup de tomes 1 hein,
qui peuvent
arriver chaque année.
Mais ce sera génial, tu pourras faire une mosaïque de tomes 1.
Mais je crois que j'en ai 3 ou 4 moi déjà, des tomes 1.
Après, c'est aussi un animé qui a été vanté pour ses qualités techniques et artistiques.
Bien sûr.
Donc c'est peut-être aussi pour ça que c'est long. C'est que si on fait bien les choses, il faut les faire.
Tout à fait. Et puis surtout que chaque film au Japon, c'est numéro 1 en box-office. Ouais, donc ça rapporte aussi pas mal. Et donc, quand t'as un filon, pourquoi l'épuiser ? Mm-hmm. Ça serait dommage. Et de la part de Panini, ça serait aussi dommage de se dire « Non, on va pas ressortir un tome 1, les gens vont l'acheter, mais ils vont se lasser. » Non.
Ce serait bête.
Mais faisons-le quand même.
Ils vont pas faire ça. Mais oui, moi j'ai même la première édition de la première traduction. Tu sais, quand c'était pas
les rôdeurs de la nuit.
Bien joué.
Et qu'on avait des ogres à abattre. Ensuite, alors je l'ai mis là, Joe.
Déjà, le titre est trop long. Je te le dis.
Hajime, Teddy Riner, l'ascension d'une légende d'après l'histoire de Teddy Riner.
Donc, il y a deux fois Teddy Riner dans le titre. Donc,
je sais pas, c'est le titre officiel.
C'est vraiment le titre officiel.
Oui, c'est le titre officiel des bases de données. Écoute. Donc voilà le manga sur l'histoire de notre futur président de la République. Et bien, super lancement. Alors, je l'ai mis là, pourquoi ? Parce que même si c'est l'histoire d'un judoka. S'il n'y a pas le nom Teddy Riner qui est presque une marque aujourd'hui.
Bah, si tu mets Instinct dans Stop, tu mets Teddy Riner dans Stop.
Bah voilà, mais c'était un peu le même esprit. Ouais. Même
après là, c'est un produit de masse, mais une vraie masse. Quoi. Plus de 100 kilos.
Il fallait la faire.
Mais t'as bien aimé en plus ce titre.
Ah oui, bah moi pour le coup, j'ai vraiment aimé. Au début, je croyais que c'était le nouveau titre de Renaud Lemaire, une grosse erreur, bien entendu. Mais quand j'ai lu, non, c'était vraiment. En fait, ce que j'ai aimé dedans, c'est que tu sens que le manga, c'est vraiment ce qui s'est passé dans la vie de Teddy Riner. Moi, j'en suis persuadé, je lui poserai la question un jour quand je le verrai. Mais et tu vois, en fait, l'histoire derrière l'homme, et c'est super. Moi, je trouve ça super.
Donc, Hajime, excellente vente. Donc, du coup, je pense que le tome 2 va bien suivre aussi en termes commerciaux. Sandland est après Toriyama. Je l'ai relu cet été, Sandland, c'est quand même vachement bien.
Ouais, c'est très cool. Très, très cool.
Et l'édition, c'est chouette d'avoir une nouvelle édition. Je sais pas pourquoi je l'ai racheté, j'avais l'ancienne, mais c'est comme mes 4 ouais, c'est comme mes 4 exemplaires du tome 1 de Demon Slayer. Hein. Voilà. Je sais pas pourquoi j'en ai autant, mais je les ai. Tu sais, j'ai même l'édition pilier.
Alors tu les gardes, ouais, c'est ça. Tu vas pas te débarrasser de l'ancienne version, ce qui est...
Non, mais du coup, ça prend beaucoup de place dans la bibliothèque. Il y a carrément un endroit, c'est que Demon Slayer, tellement il y en a quoi. Ensuite, Sandland donc Pokémon. Pokémon est là. C'est le dernier, la dernière série Pokémon, Écarlate et Violet, qui est en ce moment en cours au Japon, qui est sorti cette année en France. Pokémon qui est toujours là. Et un petit peu plus loin dans le top, vers la fin du top, on a une ancienne série de Pokémon qui est Ruby Omega et Saphir Alpha, qui était sortie il y a peut-être une dizaine d'années, quelque chose comme ça, ou 7-8 ans au Japon, et qui n'était jamais paru en France. Et elle est sortie cette année, et donc du coup, elle devait être suffisamment attendue, puisque les gens sont assez bien jetés dessus. Et Pokémon, ça continue, année après année, à fonctionner en manga.
Bah, c'est à force de la licence, là. Hein. Ouais. C'est un truc, je crois que c'est la troisième licence tout confondu la plus vendue dans le monde, Pokémon. Donc c'est au bout d'un moment...
qu'est-ce qui se passe dedans, dans ce manga?
C'est les mêmes histoires que tu peux voir dans l'animé, par exemple. C'est plein d'aventures avec des Pokémon à chaque fois. Enfin, pas à chaque fois, mais souvent, t'as un nouveau héros qui part avec ses nouveaux starters et puis qui va affronter d'autres personnes dans une aventure, qui va rencontrer forcément des Pokémon légendaires, qui va vouloir attraper. Et puis certains vont menacer la vie d'une île, d'un lieu, et ainsi de suite. Bref, c'est Pokémon, c'est l'histoire des jeux, c'est l'histoire de l'animé. Sauf que c'est en manga, quoi.
Oh là. Ça me fatigue.
Dis le mec qui est fan de Pokémon. Hein,
et oui, et j'ai arrêté depuis Écarlate et Violet parce que là, ils m'ont. En fait, ils ne veulent pas évoluer. Pokémon, c'est typique la licence qui est. On s'adresse à un public de 12 ans et toute notre vie. Bah, notre public n'évoluera jamais. Vous aurez 12 ans toute votre vie. Vous allez pousser une olive dans un but pour finir un niveau. Et au bout d'un moment, moi, en fait, ça m'a saoulé. Et là, j'ai arrêté, j'ai jeté Pokémon en disant c'est fini. Moi,
mais
j'ai
non.
plus 12 ans.
Et bah, oui, bah heureusement.
Et j'ai, joué à, Temtem et c'est 10 fois mieux.
Mais pourquoi tu l'as jeté? T'aurais pu
mais
juste
oui,
le poser garder, à côté de toi.
Non, le garder pour tes enfants.
Je l'ai jeté.
Transmettre ce flambeau.
Ton mais histoire. À 12 ans seulement.
Non, puis en plus, par la fenêtre, il y a des passants et tout. Enfin, à un moment donné,
moi, j'ai fait un heureux.
C'est ce dernier titre qui m'a ouvert les yeux.
Attraper les tous.
Fini Pokémon.
Bon bah fini Pokémon pour Johnny, voilà. Dans ce classement, on va retrouver la réédition de Promised Neverland. Finalement, c'est pas aussi oublié. On se disait, tiens, on n'entend plus parler de Promised Neverland, mais cette nouvelle édition montre que eh bien, les gens l'attendaient.
Oui, et puis il y a quand même Posca Demizu qui est venu cet été. Donc je pense que pareil, il y a aussi toujours un engouement. Et oui, c'est après c'est le travail de l'éditeur hein, d'apporter de l'eau au moulin et de faire en sorte que la roue elle tourne.
Tu l'as rencontré, toi, la dessinatrice de Promised Neverland? Elle était sympa?
Ouais, elle était très sympa. Alors, je l'ai pas rencontrée. Hein. On était très nombreux dans cette salle à la rencontrer au même moment. Mais elle était super comment dire, pétillante, elle avait l'air très 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 contente d'être à Paris et de s'amuser beaucoup de tout ce qu'elle avait à faire, à voir, de tous les gens qu'elle allait rencontrer, quoi.
Ça, c'est une autre personne qui est venue. Alors, non, pas une personne en fait, mais c'est venu en France aussi, c'est Chi, le petit chat. Dans sa dernière histoire, Chi est à Paris.
Oui,
et donc, dans Chi, une vie de chat, alors c'est peut-être à Paris le sous-titre, mais dans ce nouveau lancement, eh bien, Chi est à Paris et c'est un des meilleurs lancements autres. Ensuite, on a le spin-off de Konoha Shinden The Steam Ninja Scrolls. Ensuite, on a l'édition anniversaire de Fairy Tail. L'édition anniversaire de Spy Family, pas le même anniversaire, pas le même éditeur, oui. Mais les deux c'est pour un anniversaire. Pokémon donc Ruby Omega et Saphir Alpha, ça j'en ai parlé. Puis le dernier de ce classement, c'est Papi Kurumada qui est là avec la réédition de Saint Seiya, la finale édition de Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque.
Ouais, celle qui a réveillé certains collectionneurs qui sont montés au créneau pour des
certaines...
Ouais, il y avait eu un petit peu d'un bad buzz sur la trad au début, ouais, qui était réparé depuis.
Oui.
Et puis surtout, il y a des nouveaux chapitres, en fait.
Oui.
Oui, il n'y avait pas avant.
Oui, pour le coup, t'as un vrai truc. C'est pas juste une réédition pour faire une réédition. A priori, il y a quand même du contenu.
Ouais, puisqu'en fait, il a redessiné, il a réécrit des choses.
C'est un peu la version clean. Exactement.
Ouais, c'est un peu ça l'esprit. Donc on arrive tout doucement vers la fin de cette émission et là on peut se dire, donc voilà, maintenant est-ce que vous pouvez à peu près me dire quelles sont les 100 séries les plus vendues en France à partir de tout ce qu'on vient de se dire?
Les 100,
non. Regarde, 100, demande à Johnny, il va te dire il y a plein de trucs mais on sait pas ce que c'est ça.
Bon, si tu me dis que le premier il vend deux fois plus que le quatrième qui vend moins que le deuxième,
Le premier, c'est One Piece, Johnny.
Ah bah oui.
Bon, on retrouve tous les mêmes. Hein. One Piece, c'est la série la plus vendue en France devant Naruto, suivi de Blue Lock. Naruto qui est toujours là, hein, quand même.
Bah moi, je suis très contente parce que d'habitude, il est plutôt 3e, 4e. Et là, je sais pas. J'ai eu des souvenirs de... Il était plus bas dans le classement.
C'est Naruto, hein, pas Boruto. Avec...
Naruto.
Voilà. Bah, c'est pas mal.
Bah, c'est à cause de l'édition double. Là.
Mais si on met Boruto avec, il remonte un peu, mais il est toujours deuxième. Hein. One Piece est tellement loin devant.
Oui,
bah,
ça,
il me semble qu'on vend deux fois plus que de Naruto.
Bah, il y a 109.
Chaque seconde en France, il se vend.
Un Naruto.
Blue Lock, donc, qui confirme évidemment ce qu'on disait un peu plus tôt. Blue Lock, troisième série la plus vendue en France. My Hero Academia, c'était la fin cette année. Quatrième série la plus vendue en France. Berserk, cinquième série la plus vendue en France.
Ça, c'est classe.
Ouais. C'est classe, hein? Ouais, oui, moi aussi, je trouve ça.
Ça en impose.
Ouais, carrément. Spy Family, Jujutsu Kaisen, ça suit. Demon Slayer, toujours là. Dan Dadan, c'est pas fort au tome par rapport aux autres, puisqu'on a vu qu'il y avait qu'un tome qui se classait parmi les 100 meilleures ventes de manga. Sauf que sur la longueur, toute la série.
Ouais, ils sont dans
ça, c'est bien.
Bah, ouais. Je pense que c'est vraiment une série de gens très fidèles, quoi. Enfin, je pense que les gens qui sont dans Dan Dadan, ils kiffent et tu vois, ils suivent, quoi, tome par tome.
Dadan qui est donc devant Dragon Ball Super. Dragon Ball Super qui serait beaucoup plus haut si on le mettait avec Dragon Ball. Ouais. Parce que c'est quand même un peu la même chose.
Ouais. En moins bien.
En moins bien. Soit, mais c'est la suite, fatiguée, quoi.
Essorée.
C'est la suite un peu essorée. Instinct, qui n'est pas une série, mais bon, voilà. Si on devait le mettre dans le classement, il arriverait à cet endroit-là. Ensuite, on a les carnets de l'apothicaire Dragon Ball, qui est la Dragon Ball, la série originale.
Avec les colors qui, à mon avis, permettent aussi un peu.
Ouais, c'est possible, ouais. One Punch Man, Fairy Tail, Kaiju numéro 8, L'Attaque des Titans, Chainsaw Man, Hunter x Hunter.
Oh là là, t'es si bas, Hunter x Hunter.
Bah, si bas
pour
une série.
Pour un mec qui sort Hunter chaque année.
Ouais.
Voir tous les 4
ans. C'est ça. Ouais. Chaque année, t'es gentil.
Bah, tu devrais être plus haut, mon gars.
Je trouve que c'est déjà quand même pas mal. Avec un seul tome de Hunter, plus les 37 autres qui sont disponibles, c'est quand même devant Free Run, par exemple, ou devant Pokémon.
Bah, t'es nul. Oh.
Le mec juge tellement, quoi. Vagabond pointe le bout de son nez juste derrière Pokémon. Ensuite, on a Oshinoko, Sakamoto Days, L'Atelier des Sorciers, Détective Conan, toujours là, Dr. Stone, Kingdom, Toilet Boon, Hanako-kun, qu'on oublie un peu souvent. Hein.
Oui, c'est vrai ça. Enfin, je suis désolée.
Pourquoi on oublie autant?
Enfin, parce que là, j'ai empilé, je pense, les 6 derniers tomes et je n'ai pas encore repris le fil. Mais bon, bref, ça c'est mes petites popotes. Mais bah, je ne sais pas. Parce que c'est peut-être un titre aussi qui est très... qui a un public finalement assez discret, quoi, qui est là, qui est fidèle, mais qui finalement s'intéresse aussi à plein d'autres trucs.
Je vous propose maintenant de passer au top par éditeur. Il suffit pour essayer de voir un petit peu aussi ce que chaque éditeur réussit à bien mettre en avant. Et évidemment, ça ne change pas beaucoup par rapport à l'an dernier. Glénat, c'est toujours évidemment One Piece, suivi de Berserk.
Bah oui, ils sont dans le top 100.
Ils sont même dans le top 5 du top 100. Donc, chez Kana, c'est évidemment Naruto. Chez Kurokawa, c'est Spy Family. Chez Panini, c'est Demon Slayer. Chez Kiun, c'est My Hero Academia, suivi de Jujutsu Kaisen. Chez Pika, c'est donc Blue Lock. Chez Crunchyroll, c'est Dan Dadan maintenant qui a détrôné les tronçonneuses et les monstres géants. L'an dernier, c'était Kaiju et Chainsaw Man hein, qui étaient parmi les meilleures ventes de Crunchy. Mmh. Maintenant, c'est Dan Dadan devant. Chez Soleil, c'est Splatoon.
Okay.
On va le mettre dans le autre. Chez Delcourt, ton cam, c'est comme l'an dernier. C'est Vagabond qui est encore suivi
mais
de Nana.
Quand même, Vagabond n'a pas beaucoup
dit. Non, mais même Nana.
Non, mais c'est quand même cool que Vagabond soit aussi bien placé. Tu vois, il est au-dessus de Slam Dunk alors qu'il y a vraiment aucune actu. Enfin, tu vois, genre, c'est vraiment un titre qui se crée, ça hype ouais. Tout seul, naturel.
C'est un mythe.
Pourquoi vous achetez des séries qui finissent pas? Vagabond, c'est pas fini. Nana, c'est pas fini. Arrêtez.
Mais ils ont quand même eu la bonne idée, hein, il y a quelques années maintenant, dès le court ton cam, de rééditer Vagabond parce que c'était devenu introuvable. Enfin, même pas de rééditer, de réimprimer.
Oui,
quoi.
C'est ça. Ouais.
Juste de réimprimer les dates.
Non, mais c'est... Oui, mais après, c'est des super titres iconiques.
Évidemment.
Mais je pense qu'il y a des petits, c'est un peu comme Asano, il y a des effets TikTok, à mon avis. Il y a des mecs, tu sais, qui remettent, tu sais, genre, ouais, ce truc de culte mythique que vous connaissez peut-être pas, que vous avez pas eu, alors que tout le monde l'a lu. Mais je veux dire, c'est un truc, je pense que ça, il y a des petits effets de hype.
L'effet sous côté.
Ouais, non, mais oui, voilà.
Ce serait bien que le Ishinomori là, sur Miyamoto Musashi profite un peu de la hype des samouraïs.
Ouais, ça va. C'est moins TikTok compatible.
Ouais, mais tu pourrais dire. Ouais, c'est sous-côté.
chez Nobi Nobi. Je pense que c'est du TikTok compatible, hein, puisque du coup, Minecraft a viré Lilo et Stitch de leur première place de meilleure vente de cette période. Chez Doki Doki, c'est toujours Hachime, Aruru, Shaderu. Chez Ankama, c'est toujours Radiant. Chez Mangetsu, maintenant, c'est Aowashi hein, qui est bien en tête. Chez Akata, c'est toujours A Sign of Affection. Chez Mayan, c'est toujours Kingdom. Chez Manabooks, maintenant, c'est My Love Story with Yamadaku, notre level 999. Et Elden Ring. Ah. Chez Isan, c'est Dynamic Heroes et Blackjack. Au Lézard Noir, c'est toujours Hiraya Sumi. Chez Vega, c'est Gundam Unicorn. Je m'attendais à ce que ça soit Gundam The Origin. Bah, c'est l'autre, celui que j'aime moins.
Il est quand même plus abordable. Enfin, tout bêtement, c'est le truc de prix, non ?
Ouais, oui, bah, il est abordable. Ah oui, abordable dans ce sens-là.
Oui, bien sûr. Oui, bah après, non, je veux dire, même l'histoire, je pense que c'est un peu plus. Il y a un peu plus d'action.
Il est un peu plus animé compatible.
Voilà, ouais, il est moins vintage.
C'est ça, exactement. Chez Naban, c'est toujours Anna et le prince d'Albion. Chez Saka, c'est l'habitant de l'infini et Glouton Dragon. Et chez Rue de Sèvres, c'est la forêt magique de Oshigahara. Voilà, vous savez quasiment tout. Je vous propose aussi de revenir sur nos titres favoris. Enfin, sur mes titres favoris, en fait.
De 2025.
Non, de tout le temps. On est maintenant près de 1500 fans de Journey Beyond Heaven.
Oh, on va faire des badges, on va faire une communauté.
Soyons soudés.
Au 2000ème.
On augmente un tout petit peu. Pas beaucoup, mais on augmente
un tout
petit peu.
Au 2000ème, on reprend Cagnard. On reprend Cagnard dans la 5DC.
C'est ça. Ah ouais. Au prochain tome de. Oui, mais alors faut attendre le prochain tome pour
vérifier. Si on baisse, on vire quelqu'un d'autre.
Oh, mon dieu, pourquoi il me regarde?
Attention.
Journée bien Evan, soyons soudés. On peut peut-être se faire un signe pour se reconnaître dans la rue, si je sais pas, il y a peut-être un truc qu'on peut faire. Ou alors on essaye tous, on est 1500, si on arrive à convaincre 3 personnes autour de nous.
Mais moi je travaille, hein,
de l'acheter.
L'autre fois,
on montrait à 4005.
Ouais, c'est une bonne
idée.
Les potes
de ma copine, genre on en a parlé, hein, tu vois, genre j'essaye de travailler petit à petit. C'est un truc, c'est un peu dur à pitcher, hein, mais c'est. Je pense que.
Alors par contre, si tu convaincs 3 personnes de lire, vous saurez pas. 4005. Hein.
Bah, si on est 1005 fois 3.
Si eux-mêmes convainquent 3 personnes.
Bah, non, parce que.
Ah oui, on sera 6000, tu as raison.
Donc plus. Alors, essaye pas de m'avoir sur les chiffres.
T'as enlevé la TVA ? Non.
L'autre, il dit, c'est bon, il a essayé, hein. Le double, machin, il a fait, on convainc 3. On sera... Non, voilà, j'ai suivi.
J'ai dit de plus. C'est ça que t'avais pas dû entendre, ouais, je pense.
Ça,
tu réécouteras les bandes.
Non, t'as pas dit ça.
Je couperai alors le de plus pour te donner raison.
Exprès.
Donc 1005, ouais, c'est quand même plus que Babel. Babel, The New Hackenden de
Yui
Ishikawa.
Oui, mais combien de fois plus ? 3 fois plus ? 4 fois plus ?
C'est 5 fois plus à peu près, puisqu'on doit être sur 300-400. Ah ouais. Être ouais. Fan de Babel.
Je pense que ça, c'est un peu des trucs qui nous rendent humbles, nous, en tant que prescripteurs, où on se rend compte que notre poids est assez minime, finalement.
Médiocre.
En fait, ce que je me demande, c'est que sur Babel, ça se trouve, on serait... que 200 si on n'avait pas fait d'émission. Ah. Tu vois ce que je veux dire ?
On serait 100.
On serait juste nous.
Il y aurait peut-être que 250 fans et maintenant, grâce à nous, il y a peut-être 50 fans de plus.
Ouais, c'est vrai.
Soit c'est pas énorme, mais pareil.
À 10% de...
Bah, il faudrait que les gens qui l'ont découvert grâce à nous et qui aiment se manifestent. Envoyez-nous une lettre.
De manière exhaustive.
Une lettre.
Oui. Au studio.
Au studio 305 de la Plaine Saint-Denis, évidemment. Chère Dorothée. Donc quand on va faire notre émission sur Babel pour la fin du manga au mois de novembre, puisqu'on va faire une émission sur tout Babel, sur tous les tomes, une fois que le dernier tome sera sorti, je pense qu'on va, ça va être l'émission la moins écoutée de l'année.
Mais ça, on ne sait pas.
Mais non, on ne peut pas dire ça.
Tout peut arriver.
Et puis après, une fois que ce sera terminé, c'est novembre, tu fais un joli petit paquet et hop, tu l'offres à quelqu'un.
Non, ça n'arrivera pas, ça.
À Noël dernier, ceci dit, vous avez été quand même... Et alors là, je suis très fier de vous. Vous avez été une dizaine à vous prendre ou à offrir l'intégrale de Psyrène. Bravo. Je tenais à féliciter tous les auditeurs. Parce que je pense que c'est que des auditeurs de la 5e de couve. Donc je tenais à vous féliciter.
Ils ont pris les 20 tomes d'un coup là.
Ouais, tous les tomes. D'un
et
coup.
Après, ok, d'accord. Mais c'est dommage.
Une intégrale.
Vous n'avez pas le tome collector avec la carte. Et j'ai encore trouvé chez moi. J'étais très content d'avoir cette.
Et tu l'as mis dans un carton du coup.
Ouais, j'ai plus de place. J'ai plus de place. Mais je sais
quelle
qu'il
idée
existe.
De le mettre dans le carton aussi.
Il est toujours là, cette tome collector.
Donc voilà, bravo, vous continuez à vous offrir des intégrales de Psyrène, des intégrales comme ça, vous ferez la même chose avec Babel dans quelques années,
oui, complètement.
Je suis sûr. Et sinon, je me suis amusé à faire un truc, à regarder toutes les références qui coûtaient moins de 3 euros, vous savez les fameux mangas à 3 euros.
Tout à fait.
Est-ce que le manga à 3 euros, c'est vraiment symbole de vente, à votre avis?
C'est compliqué, parce que est-ce que c'est seulement le prix? Il faut regarder le contenu, il faut regarder la maison d'édition qui est derrière, il faut regarder plein de... comment dire, de facteurs. Donc, c'est une question que je me suis posée moi aussi.
Bah, j'ai l'impression que pas du tout.
Voilà.
Il y a 90 références à moins de 3 euros sur le marché. C'est pas énorme, hein, 90 références qui ont encore vivantes, on va dire. Mm. Un peu plus de 90 encore vivantes de références sur le marché à moins de 3 euros. En vente, ça cumule à peine plus que toutes les ventes de Instinct.
Pas en valeur, hein, en vente, quoi.
Genre, en nombre de volume. En nombre de volume.
Après, c'est peut-être aussi que Instinct a fait des scores vraiment.
Ouais, mais du coup, vous achetez votre Instinct d'occasion, puis après, vous prenez pour moins prendre un manga à 3 euros, tu vois. Je sais pas. En plus, il y a des super bons titres dans cette série. Non, mais
c'est complètement.
Il y a même chaque année, vous savez, il y a les 48 heures de la bande dessinée, et à chaque fois, les éditeurs sortent souvent des tomes 1 qui valent vraiment le détour dans ces.
Bah oui, l'idée de ces OP, c'est un peu de recruter sur des séries chouettes qui n'ont pas forcément connu succès, et du coup, c'est vrai que c'est un truc qui peut inciter les gens. Donc,
Ouais, non, je pense qu'il faut vraiment sauter dessus quand vous voyez ça. Franchement, oui, c'est quand même pas énorme. Alors oui, ça veut dire se lancer dans une série, ça veut dire...
Bah c'est ça. C'est forcément, les gens, ils voient le nombre de volumes qu'ils vont devoir acheter derrière. C'est un peu le cadeau empoisonné, entre guillemets. Mais...
C'est le principe de la drogue. Hein. Et oui, ça peut devenir une drogue. Mais quand je vois, tu vois, Kiun qui avait fait toutes ses références l'année dernière, qui était un peu historique dans leur catalogue, à 3 euros, tu te dis, bah ouais, pour essayer, ça coûte pas grand-chose, quoi.
Oui, c'est clair. Non, non, complètement.
Voilà, j'espère que maintenant, vous êtes calé sur le marché, sur l'analyse de ce marché manga, qui est encore assez complexe. Comme il est, j'ai l'impression, encore en mutation, il est difficile à vraiment bien capter.
Oh ben là, ça y est, enfin, je veux dire, il y a quand même... Donc, en gros, on va dire le manga... de licence, enfin, ou vraiment au terme hyper large, qui devient de plus en plus une espèce d'image de référence pour le très grand public. Et je veux dire, on va encore avoir les chapelles qui vont se battre entre ceux qui sont les puristes et les gens qui vont entrer par des portes qui seront peut-être plus faciles, plus commerciales, mais qui, je l'espère, les aideront à lire de plus en plus de choses plus pointues, plus diversifiées aussi.
Je vois ça d'une autre manière. Et c'est marrant parce que parmi les deux mangas de licence dont on a parlé dans cette émission, Stitch et Minecraft, les deux sont sortis chez Nobinobi.
Oui.
Nobinobi qui s'est lancé parmi les premiers, enfin, ou en tout cas qui ont voulu essayer d'explorer le marché du Kodomo. On les avait reçus dans cette émission, dans une émission qui s'appelle Quel manga pour nos enfants. C'était pas pour rien. Et j'ai l'impression que de voir, alors que ce soit Splatoon, que ce soit Minecraft, que ça soit Stitch, que ça ouvre aussi éventuellement un marché Kodomo qui était quasiment inexistant en France avant.
Ouais, mais pour moi, c'est pas des Kodomo, c'est des mangas de licence plus, tu vois. C'est-à-dire que c'est des trucs qui sont achetés par des gamins qui ont vu le film ou qui sont fans de Minecraft, tu vois. Je pense pas que c'est des gamins qui vont apprécier la grammaire manga ou, tu vois, je sais pas. C'est pas, pour moi, j'ai du mal à voir ça comme un vrai produit d'appel pour pousser des gamins à lire du manga, tu vois. Je pense que c'est plus un truc qui va être acheté parce que la licence est connue, et c'est pour ça que moi à titre personnel, ces types de productions me font un peu peur, parce qu'en fait on voit que le manga, comme beaucoup d'autres secteurs culturels, est un peu en train de tomber dans ce truc de faire du marketing avant tout, quoi, alors que ce qui a fait sa force, c'était sa créativité, c'était ses auteurs, c'était ses éditeurs et tout. Et ça, là, on n'est plus dans, c'est plus du travail d'édition, là, c'est du travail de développement de licence. Et c'est, ouais, c'est un peu, moi ça m'attriste un peu, quoi. Mais
il y a quand même énormément d'éditeurs quand même en France pour ce secteur, je trouve. Enfin, en tout cas, on a vu, chacun avait sa place. Donc ça veut dire qu'ils tiennent une cohérence éditoriale, ils ont déjà des publics qui leur sont acquis, etc. Mais on sait qu'en ce moment, bah, il y a de plus en plus de créations de grands groupes, il y a des maisons qui sont rachetées, enfin, il y a des mouvements qui font que peut-être dans quelques années, bon, je ne sais pas, hein, c'est une hypothèse, il y aura vraiment des polarités dans ce secteur. C'est tout à fait envisageable, en fait.
Ouais, après, quand tu regardes, c'est déjà le cas, en fait.
Ouais, mais j'essaye de pas trop y penser.
Non, mais ce qui est rassurant, c'est que si tu regardes quand même vraiment dans le très très haut du panier, on va dire, des ventes, c'est des vraies œuvres de création, tu vois.
Bien sûr.
Donc, même si c'est la licence dans le sens où c'est des Français qui achètent une œuvre publiée ailleurs, mais je veux dire, c'est des œuvres d'auteur, tu vois. C'est quand même, ça, c'est quand même aussi quelque chose qui est rassurant. Mais moi, petit à petit, voir tous ces trucs, et puis surtout des licences américaines, moi, c'est ça qui me déprime, en fait. C'est vraiment ce côté, ça y est, même, ils arrivent même là, quoi.
Même là, les Américains.
Mais à travers le jeu vidéo.
Ils transforment.
Ouais, ouais. Bon, Minecraft, à la limite.
On revient à Expédition, je sais plus combien.
Expédition 33, bah
voilà. Il va y avoir le manga. Ah, bah, record.
Oui, ça, c'est sûr.
Oui, mais au moins, c'est des Français. Soyons heureux, le cocorico.
Arrêtons de dénigrer le jeu vidéo. Ah, après, tu vois, Johnny les jette par la fenêtre. Donc,
mais moi, j'ai pas eu ma place là pour le concert, ça m'énerve. Tous ces gens.
Pour le concert
de Expédition 33.
Il y a un concert Expédition 33.
Ouais, tout ça évidemment, aussi, ouais. Toute la musique qu'il y a eu.
Salle Playel.
Franchement, alors, ça va être le jeu de l'année, mais c'est à 50% parce qu'il y a la musique dedans. Sans musique, c'est un jeu de merde. je vous le dis tout de suite. Non, j'abuse. Mais en vrai, ça représente vraiment 50% de l'expérience du jeu. C'est la musique est incroyable.
33%, allez.
Oh non, 34%.
Bon, le double alors.
Le double de 33 ou 34
du pourcentage.
Non, mais en même temps, faire des places de concert avec seulement 3000 places dedans, et oui, c'était évident que ça allait être plein en 2 secondes. Bref.
Donc, parce qu'il y a le concert de la musique du jeu Expédition 33, ouais. Et donc il n'y avait que 3000 places.
Ouais.
Et tu ne l'as pas eu.
Non.
Ah
ok,
là là.
Voilà, ouais. C'est plus clair maintenant.
Bah, je suis triste pour toi.
Compris. Merci.
Merci d'avoir écouté cette émission. J'espère que tout est plus clair pour vous. Évidemment, si vous voyez des choses un peu floues, si à un moment donné, je sais pas, j'aurais pu me inverser deux valeurs, avoir dit cash flow trop de fois, je ne sais pas. N'hésitez pas à nous le dire. On fera un petit terratum si jamais. On se retrouve la semaine prochaine pour apprendre à lire, à relire ou à arrêter de lire des mangas.
Oh là là. Wow, dernière
c'est
émission.
C'est une émission de sevrage.
Vous savez, Cagnard, il est vraiment plus là, alors c'est fini pour tout le monde.
À la semaine prochaine, merci de nous avoir écoutés. Laissez un commentaire, une note ou partagez l'émission autour de vous. Merci à vous. Ciao, salut.
Salut.
Merci.
Salut.